l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, en partenariat mensuel avec l'USPG, c'est l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, une association basée à Quimper, une association qui veut faire entrer l'alimentation en transition et qui nous propose une réflexion approfondie sur ce que nous mangeons, en passant cette année par les métiers, de la production à la vente des aliments, on parle aussi transformation bien sûr. On a reçu par exemple une productrice de semences, un meunier, un boulanger, une pâtissière. Aujourd'hui, on revient plutôt à la source animale. Nous allons parler élevage avec notre invitée dont le parcours est intéressant puisque elle a elle-même élevé des chèvres. À présent, elle travaille pour le parc d'Armorique à Ménesmeur où elle accompagne l'espace test agricole. Elle s'occupe aussi de questions agricoles plus largement. C'est Solène Larzul que nous envoie Xavier Hamon, le fondateur de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, qui n'a pas pu être à nos côtés aujourd'hui non plus, mais on le salue et on va bien se débrouiller. Bonjour Solène Larzul.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout simplement votre première vie donc dans l'élevage de chèvres?
Ma première vie dans l'élevage de chèvres, c'était dans les années 2006, après des études de biologie, l'agriculture me questionnait et pourtant j'avais vraiment absolument personne dans ma famille qui pouvait être agriculteur de près ou de loin.
Bah, quand on fait de la biologie, c'est qu'on s'intéresse au vivant, on va dire.
Voilà, exactement, le vivant, peut-être les animaux domestiques, voilà, le cheval, mais rien de plus. Et puis oui, un plaisir d'être dans la nature, je pense aussi. Et puis une volonté aussi peut-être d'être son propre patron. Voilà, tant qu'à faire, tant qu'à travailler, autant travailler pour soi, avoir ses horaires. Et avec un besoin aussi d'une grande polyvalence. J'avais eu un poste avant à l'aquarium de Sénopolis où vraiment on touchait un peu à toutes les tâches. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant voilà, que de ne pas avoir quelque chose de trop rébarbatif. Donc, du coup, j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai opté très rapidement. En fait, ce qui m'intéressait, c'était déjà les gros animaux, les animaux à poils. Et puis aussi, travailler avec le produit des animaux, mais pas les animaux en tant que produit. Donc, très rapidement, je me suis intéressée au lait. J'avais auparavant en plus fait une petite expérience en Savoie en faisant du contrôle laitier et puis en travaillant autour des chamois. Donc voilà, c'est là que m'est venue un petit peu l'idée de la chèvre. Et puis vraiment les conseillers m'ont aussi poussé là-dessus parce que par rapport à la vache à l'époque, c'était plus compliqué pour trouver du foncier. Et donc voilà, avec
les chèvres ont besoin de moins de surface, c'est ça?
Elles ont besoin de moins de surface et pour trouver du foncier déjà c'est hyper tendu. Et avec les vaches en fait, il fallait à l'époque on appelait ça les DPU, les droits à paiement uniques. Et donc voilà, fallait des droits à produire liés aux terres, ce qui n'était pas le cas pour les chèvres. Donc voilà, donc très rapidement, déjà mon cœur balançait largement pour la chèvre, mais ça a été un petit peu la décision finale. Après, ce qui était aussi important pour moi, c'était d'avoir un troupeau à taille humaine. Ça, c'était vraiment fondamental. Et aussi de pouvoir avoir
Gérer
tout ce qui était valeur ajoutée en fait.
Oui, enfin, dès le départ.
Garder la valeur ajoutée en fait et donc gérer aussi tout ce qui était prix notamment. Donc voilà, donc c'est très rapidement, j'ai décidé que c'était important d'avoir un petit troupeau. Qui dit petit troupeau dit besoin de valoriser.
Ah, qu'est-ce que c'est donc, petit troupeau, ouais, juste pour qu'on ait une idée.
Un petit troupeau en chèvre en fait, il faut pour vivre avec, si on transforme comme j'allais dire, il faut une quarantaine de chèvres pour vivre. Pour une personne. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on vend le lait de la chèvre, il faut 200 à 300 chèvres pour une personne.
Si on transforme pas. Voilà, ah ouais.
D'où l'intérêt vraiment d'avoir toute cette valeur ajoutée derrière. Donc ça implique de la transformation et ça implique derrière de la vente aussi, principalement en circuit court. Donc là, j'avais vraiment toute la polyvalence que je voulais. J'avais vraiment l'élevage, la transformation, la commercialisation. Et puis à ça, on rajoute tout ce qui est comptabilité, gestion, tout ce qui est mécanique, et on en passe. Et de la communication, mais là, en général, on est assez mauvais.
Oh, c'est pas une fatalité. Et vous étiez déjà dans le Finistère. Enfin, c'est dans le Finistère que vous...
Ouais, j'étais originaire du Finistère. Quand je suis partie 2 ans en Savoie, j'avais vraiment cette envie de m'installer en Savoie, parce qu'en plus, là-bas, ils sont double actifs souvent. Ils sont profs de ski en même temps et tout. Je trouvais ça génial. Et en fait, c'est impossible là-bas de s'installer quand on n'est pas de la vallée la vallée qu'il faut.
Parce qu'on n'a pas les infos,
Chauvin,
en fait, c'est ça.
Ah ouais. Ils le sont, je pense, encore plus que nous. Ah ouais. Donc, pour avoir des terres là-bas, c'est très, très compliqué quand on n'est pas du coin. Et je me suis dit quand même, tant qu'à changer complètement aussi de milieu socio-professionnel, ça me rajoutait quand même une complication que de m'installer loin de toute famille, quoi. Donc, donc du coup, j'ai opté pour revenir dans le pays natif et puis m'installer. Et je ne regrette pas du tout.
Ouais. Donc, Elian, c'était quel type de terrain? Alors, pour 40 chefs, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut comme surface puis...
Alors, c'était très petit, parce que comme je disais, c'est compliqué de trouver des terres quand on n'est pas issu du milieu agricole. Moi, j'ai trouvé vraiment par agence immobilière. Hein. À l'époque, il faut se dire, 2006, il y avait... J'étais pas du tout la première, mais il y avait très peu d'installations hors cadre familial. Enfin, c'était pas aussi important. Et donc voilà, c'était pas facile. Et même au niveau de tout ce qui était banque et tout, tout ce qui était petit élevage de chèvres avec diversification, on passait pour des.
Ouais, puis les chèvres, cool. Ça reste encore marginal, on va dire, même dans le Finistère.
Oui,
dire.
Encore maintenant. Oui, en plus, c'est sûr que c'est pas culturel le fromage de chèvre par chez nous, c'est sûr quoi. Donc vraiment, ouais, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai trouvé que 8 hectares à l'achat à l'époque, avec bien sûr des terres escarpées. Parce que voilà, dont personne ne voulait, mais qui était finalement super pour les chefs, ce qui me permettait d'avoir vraiment des prairies, mais aussi une prairie humide, de la forêt, donc voilà.
Parce qu'elles aiment ça, les chèvres, grimper partout.
Voilà, ça grimpe, ça a plutôt tendance à cueillir qu'à brouter, ça va chercher tout ce dont ça a besoin. C'est vraiment intéressant aussi pour la santé du troupeau, que de pouvoir aller en forêt, par exemple pour le parasitisme et tout ça, d'avoir une pluralité dans l'alimentation. Donc ça se prêtait très très bien, donc du coup voilà, c'est et de là du coup je me suis dit bah un petit peu ces terrains escarpés tout ça, bah j'ai vu évoluer la chèvre alpine, elle me va bien, et donc on est parti sur de la chèvre alpine parce que c'est vrai que autant en vache je serais partie sur de la pinoire ou des choses comme ça, autant en chèvre il y avait déjà très peu de références techniques et donc c'était compliqué d'argumenter ça auprès des banques que en plus de se lancer éventuellement dans une race locale.
Mais il y a des races locales en Bretagne de chèvres ?
Il y a la chèvre des fossés en fait en race locale. Mais moi, honnêtement, à l'époque, j'étais pas du tout sensibilisée spécialement à la race locale. Sur les vaches, comme je disais, c'était le petit gabarit qui m'intéressait, puis la fromageabilité du lait. La chèvre des fossés était, moi je la connaissais aussi comme ça, on l'appelle pas pour rien la chèvre des fossés, comme une chèvre plutôt qui servait à l'entretien en fait, donc pas forcément avec des capacités laitières très importantes. Maintenant ça se développe de plus en plus parce que justement on pousse un petit peu ces lignées là. Donc voilà, donc à l'époque moi je me suis dit j'avais tout à créer, j'ai pas repris une ferme, j'ai créé une ferme de A à Z. J'avais besoin quand même aussi d'avoir une certaine rentabilité.
Hein. Ouais, ouais, bien sûr.
Donc je me suis dit voilà, on va se mettre on va passer les marches les unes après les autres et on va pas se mettre en difficulté d'entrée de jeu et voilà, on va trouver quelque chose de cohérent pour tout le monde, que ce soit économiquement mais aussi humainement.
Et la chèvre alpine, donc elle a une bonne fromageabilité, comme vous dites. Enfin, c'est quoi? C'est déjà un goût, j'imagine, du lait.
Ouais, alors il y a très peu de chèvres qu'on retrouve dans les élevages de chèvres. En fait, on retrouve beaucoup dans les élevages ce qu'on appelle hors sol, donc qui sortent pas beaucoup. Les sanennes, qui sont les blanches là, qui sont assez costauds et qui mangent bien et qui produisent bien. On retrouve après l'alpine, donc un peu chamoisée là, qui est un peu plus svelte, qui mange un peu moins, qui produit peut-être un petit peu moins, mais qui est assez rustique et justement qui se plaît bien sur les milieux un peu escarpés. Et puis la chèvre poitevine qui est aussi très intéressante, mais qui était aussi un petit peu en voie de disparition, donc qui n'est pas forcément facile à trouver à l'achat. Qui elle aussi est plutôt particulièrement rustique. Parce que le problème de la chèvre quand même en Bretagne, c'est de trouver une chèvre, un animal qui est adapté aux conditions pédopédiques.
C'est exactement ce que j'allais vous demander, est-ce qu'elles se sont bien adaptées ces chèvres ?
C'est-à-dire à la pluie.
Bah oui.
Oui, elles se sont bien adaptées, mais ça fait des problèmes au niveau parasitaire notamment. C'est des animaux qui ont besoin de rentrer par exemple aussi le soir, assez souvent. C'est des grosses chochottes quand il pleut.
Donc, vous aviez des bâtiments voilà. Du coup ?
Ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, j'avais une chèvrerie... en fait, l'intégralité de mon exploitation, c'était un bâtiment avec la chèvrerie, la salle de traite et le laboratoire pour transformer.
Et vous étiez en bio, je suppose, non ? Enfin, je vous ai
oui.
pas demandé, mais en
et
fait,
j'étais en bio. Ouais. Ouais.
C'était un choix dès le départ, pareil.
C'était un choix dès le départ, et puis en fait, je m'installais, j'avais tout à apprendre. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va apprendre. Bien, entre guillemets. Voilà. Donc, après, comme je disais, comme j'avais très peu de terre, il fallait que je travaille avec d'autres éleveurs pour être autonome au niveau de l'alimentation. Et donc, moi, j'avais pris le parti, comme c'était un parcellaire qu'on appelle très groupé, c'est-à-dire autour du bâtiment, justement,
bien, ouais.
de garder tout en herbe, en fait. Donc, moi, j'avais vraiment, c'était que du pâturage, de la forêt, tout ça. Et je travaillais avec d'autres fermiers pour m'approvisionner, notamment en foin et aussi en céréales.
Oui, parce que quand même, l'hiver, on complémente l'alimentation. On ne peut pas les laisser que en autonomie.
Même en chèvre, je les complémentais pendant la lactation. Elles ont besoin d'être soutenues, donc elles avaient des céréales et de la luzerne pendant la lactation, en plus de l'herbe.
Ouais. Et c'est en Savoie que vous aviez appris à faire tout ce qui était fromage
Non, j'ai rien appris du tout. J'ai appris sur le tas. J'ai simplement, en fait, quand j'ai décidé de m'installer, je me suis dit, pour pouvoir justement accéder aux terres et pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les aides à l'installation, il faut un diplôme agricole, ce que je n'avais pas. Donc, du coup, j'ai fait un BTS en un an par alternance, en fait, à Angers. Et dans le cadre de ce BTS, j'avais 12 semaines de stage. Donc, j'ai fait une semaine par mois de stage à la Pointe du Raz, chez un vieux de la vieille, mon mentor, donc qui m'a tout appris, qui était en traite à la main.
C'est souvent qu'il y a des chèvres au bord des falaises, là, c'est marrant. Chez nous, en tout cas.
Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Je me suis dit, j'ai commencé, j'avais pris 3 semaines sans solde pour aller tester ça. Donc, je suis allée en plein novembre à la Pointe du Raz. Passer 3 semaines avec lui, je me suis dit si je survis à ça, ça devrait bien se passer derrière et j'ai adoré et donc j'ai continué avec lui et donc ça m'a permis de voir tout un cycle de production avant de m'installer en fait à mon compte. Maintenant, de toute façon, quand on se lance à faire du fromage, ça se passe toujours bien chez les voisins, chez les anciens, parce que ça roule. Mais nous, quand on s'installe dans un laboratoire tout neuf où il n'y a pas de microbisme et tout, on passe à peu près par toutes les erreurs possibles et imaginables.
C'est quoi le microbisme ?
Ah, le microbisme, c'est l'équilibre. En fait, le fromage, finalement, c'est notamment la croûte du fromage, c'est de la moisissure. Mais c'est de la bonne moisissure, c'est des bons ferments.
C'est délicieux même.
Voilà. Donc en fait, le principe quand on est dans une fromagerie, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas de passer son temps à tout nettoyer, parce que sinon... il n'y a justement pas de bons microbes et tout nettoyer, ça laisse la place à tous les microbes. Et on ne sait pas pourquoi, mais les mauvaises bactéries, elles s'installent toujours plus vite que les bonnes. Donc, tout réside en fait dans trouver un équilibre dans la fromagerie entre toute cette flore.
Et ça, voilà. Ça met du temps, en fait, c'est ça.
Voilà, ça met du temps parce qu'au début, on a peur de mal faire, on a peur d'empoisonner les gens. Donc, on passe son temps à tout briquer, à tout nettoyer. Et donc, en fait, on entretient un non-équilibre. Et donc, forcément, on se retrouve avec des petites moisissures, pas dangereuses, hein, forcément, hein, mais des petites moisissures moches, genre des petits poils de chat tout noirs sur les fromages tout blancs ou des gros spots bleus ou des choses comme ça. Et après, quand on explique aux gens, il n'y a pas de souci, en fait. Mais quand on vend, en tout cas, via des intermédiaires comme les Biocop ou les GMS.
Ah oui, il faut que ça soit parfait, n'est-ce pas ?
Voilà, voilà, faut que ça soit immaculé.
Et vous avez mis combien de temps déjà pour obtenir un fromage correct, en tout cas visuellement déjà
Oh, lancer une fromagerie, vu qu'au début, on ne sait pas bien comment faire. Moi, j'ai attendu trois semaines, un mois, avant de, sachant qu'on transforme tous les jours, hein, avant de vraiment d'aller démarcher et tout, parce qu'on se dit, on ne peut pas non plus aller démarcher des nouveaux clients avec un fromage qui n'est pas... qui est pas au top et qu'on n'est pas en capacité de défendre, en fait, quoi. C'est rien de bien grave, hein, mais quelquefois c'est des erreurs d'affinage, c'est un fromage un peu trop vite séché, faut du temps, faut se caler.
Et pour obtenir le fromage vraiment bon, comme enfin, celui que vous aimiez, en tout cas, ça a pris plus de temps encore ou...
Je pense que la première année, j'étais pas très très satisfaite, mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on commence, moi j'ai fait pendant toute la première année avant la traite ce qu'on appelle l'élevage des jeunes, donc j'ai acheté mes chevrettes toutes petites. Et donc, elles étaient ce qu'on appelle primipares, c'est qu'elles avaient toutes leur premier bébé. Et en fait, le lait des primipares, il est presque trop propre. Donc, effectivement, on n'a pas tous ces ferments. Les meilleurs ferments, c'est les ferments d'élevage, les ferments de la ferme. Et voilà, il y a peut-être un moment comme ça aussi au niveau de l'élevage, au niveau de la salle de traite, au niveau du fumier, au niveau de l'ambiance du bâtiment qui met un petit temps. Voilà. Alors, souvent, on peut aussi acheter au départ des ferments pour lancer un petit peu la machine. Mais finalement, chaque fromage, on peut apprendre à faire du fromage, hein, mais chaque fromage a sa typicité, justement, ah oui. En fonction de cette ambiance-là. Donc, on peut dire, il y a de la technicité et tout, mais il y a aussi une part de « c'est pas nous, quoi enfin, ».
Ouais, voilà, la technique du doigt mouillé, comme on dit. Ouais. Donc, voilà. Il faut bien un an pour installer son fromage, en quelque sorte. Et donc, vous avez, non seulement vous avez réussi à l'installer, mais vous avez bien survécu, puisque vous avez fait ça quand même pendant 12 ans, c'est ça?
Ouais.
Alors, quand vous avez un regard sur ces 12 années, qu'est-ce qui était le plus satisfaisant, le moins satisfaisant? Quel bilan vous pourriez tirer de cette expérience?
Le bilan, c'est que c'est un métier passionnant et épuisant. Voilà. Ce qui est passionnant, c'est de pouvoir aussi... Enfin, déjà, c'est de vivre au milieu de la nature, en fonction des saisons et tout. Ça, c'est super. C'est vrai que c'est le gros avantage de la chèvre laitière qui est... Elle est ce qu'on appelle saisonnée, c'est-à-dire que on se rend plus compte maintenant, on voit les vaches qui font du lait tout le temps et tout, mais rarement en bio, par exemple, parce qu'on a souvent des vélages de ce qu'on appelle les vélages de printemps. Et donc voilà, on a vraiment un cycle avec les mises bas qui vont commencer en février, mars, avec le lait qui va grimper, et puis après on va commencer à développer aussi à faire de plus en plus de marchés l'été. On va faire plus de marchés, aller plus vers les gens. Et puis on se fait la fin de saison et derrière les chèvres pour Noël à peu près, c'est ça qui est génial, elles vont être taries, c'est-à-dire que donc elles vont arrêter de faire du lait parce qu'elles sont déjà en gestation pour la prochaine fois, elles ont besoin de reprendre du poil de la bête, de se reposer, de repréparer la prochaine lactation. Et donc, il y a tout ce moment aussi, l'hiver, qui correspond bien un peu, où on n'a pas envie trop de bosser.
Janvier, février,
on fait plus la traite, on fait plus la fromagerie, on fait plus la vente, on s'occupe que d'elle. Et voilà, les journées sont plus courtes et on profite de ça. Donc, ça, c'était vraiment chouette, mais avec, à côté de ça, des pics de travail printemps-été assez colossaux.
Et j'étais toute seule.
Ouais. J'étais toute seule. Je voulais toucher à tout. Ça s'était pas prêté, j'avais eu une rencontre, j'étais pas fermée à l'association en fait, c'est juste que ça s'est pas présenté, sauf une fois où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes aspirations à long terme et je me suis dit ah non, je vais pas faire quelque chose à mon compte comme ça pour que finalement derrière je me retourne et je réalise que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc je suis partie un peu plus tôt en me disant je vais lancer mon fil conducteur, je vais m'installer toute seule, mais honnêtement mon bâtiment, tout était dimensionné déjà pour que je puisse m'associer, pour pas se retrouver avec des verrues, des choses et tout. Donc voilà, j'avais dimensionné le truc et malheureusement, je pense que c'est ça que je le côté un peu négatif, c'est que du coup j'ai jamais réussi derrière à trouver quelqu'un pour partager ça.
Et vous étiez dans des réseaux quand même, je ne sais pas, la maison de la bio, le CIVAM
J'étais au gros... alors c'est le GAB, des agriculteurs biologiques. J'étais adhérente au CIVAM aussi. Ouais, il y avait tout un réseau hyper intéressant et tout. Et j'ai cherché... Alors tout le début, hein, j'ai pas du tout cherché d'associé. Hein, puis j'ai eu la chance d'avoir aussi beaucoup de demandes de stages. Donc j'ai eu pas mal de stagiaires.
Et oui, ça, quand même.
Des stagiaires. Mmh. Alors quand ils viennent une semaine par-ci, une semaine par-là, bon bah voilà, ça déleste pas forcément. Mais quand on a des stagiaires sur la belle saison, voilà, eux ils ont vraiment à apprendre. Et puis nous, ça peut aussi nous soulager. Donc voilà, j'ai eu ça tout un moment. J'ai eu des stagiaires tout le long de ma carrière. Et ça, j'ai adoré. J'ai eu aussi un petit peu d'emploi saisonnier, donc voilà, où je pouvais embaucher pour les... en fait, il y a quatre mois vraiment très, très durs, assez intensifs et tout, quoi. Donc voilà, où j'embauchais pour printemps-été, quoi. Et puis derrière ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, moi, la charge mentale, elle est toujours pour moi. Les week-ends, ils sont pour moi. Les vacances, pour moi.
Pas
pour moi. voilà. Quand je me suis installée, quand même, j'étais toute seule à l'époque, divorcée avec un enfant de 4 ans. Là-dessus, en 2010, j'ai eu une autre grossesse. Donc voilà, ça commence un peu à tirer physiquement. On se dit, bah ouais, peut-être aussi, c'est sûr, c'est un métier passionnant. C'est pas qu'un métier, c'est un mode de vie en plus. Donc,
c'est ça, bien sûr.
Tout est mélanger la vie privée, la vie vraiment la vie pro, et c'est un côté génial parce que voilà, mais en même temps on décroche jamais. Et le fait que ce soit en plus un métier hyper polyvalent, c'est compliqué de se faire remplacer parce que moi à chaque fois que j'ai eu de temps en temps comme ça pour des week-ends et tout, c'était minimum 2 stagiaires pour me remplacer moi quoi.
Et oui.
Donc parce que on a tout dans la tête, on anticipe, on se rend même plus compte, mais voilà. Donc
on est aussi chef d'entreprise de toute façon, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Hein, ouais. Et donc à un moment on veut se libérer de ce, moi c'était la charge mentale. Mmh. Il y a un moment on peut plus et on se dit moi le salariat j'y trouve pas mon compte, c'est pas ça que je veux, c'est vraiment partager quelque chose avec quelqu'un et puis peut-être aussi profiter d'un nouvel élan d'un quelqu'un qui a envie de prendre un petit virage, alors pas un virage à 180 degrés, mais un petit virage, une diversification. Voilà, j'avais un peu le rêve depuis longtemps d'avoir 4-5 vaches en plus pour diversifier le lait ou autre chose, quoi. Mais voilà, envie de renouveau aussi dans tout ça. Et c'est ça qui est génial. Une ferme, c'est sans fin. On peut la faire évoluer toute une vie. Donc voilà.
Mais ça ne s'est pas trouvé, dans votre cas.
Voilà, ça ne s'est pas trouvé. Et ça m'a aidé, et les tentatives successives m'ont plus épuisé qu'autre chose.
C'est un peu pour ça que vous avez arrêté aussi.
Ouais,
quoi.
Carrément. Ouais. C'est qu'à un moment, c'était trop lourd. Quoi. Ouais.
Mais vous n'êtes pas totalement déconnecté de l'élevage. Vous êtes même encore bien dedans au parc naturel régional d'Armorique, puisque en fait, vous vous occupez notamment de l'espace test agricole à Ménesmeur. Donc, c'est de l'élevage. Mmh. Alors, ils sont toujours deux, c'est ça? On les a suivis. Donc, y a
Sandrine et Arnaud.
Sandrine, elle élève des brebis, c'est ça?
Exactement.
Et Arnaud, il a 2 élevages, je crois. C'est les poules et les abeilles, non?
Alors Arnaud, il teste plein de choses. Arnaud, il a commencé avec des poules pondeuses et de l'apiculture. Il a aussi essaye toujours de la volaille de chair un petit peu et des champignons.
Voilà. Ah oui, bon, voilà. C'est pas vraiment de l'élevage, même si les champignons ne sont pas tout à fait des végétaux. Ils sont plus proches des animaux que des végétaux.
Mais il est très branché de diversification, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, il ne garde pas que les pondeuses.
Et en fait, de ce que vous voyez de ces autres élevages, pour les brebis par exemple, est-ce que c'est très différent des chèvres?
Non, alors après, elle est en ovin viande, hein, donc plein air intégral. Donc, il y a beaucoup moins de travail d'astreinte, entre guillemets. Il n'y a pas la traite, la fromagerie, tout ça. C'est un autre travail, hein, c'est plutôt les clôtures. C'est beaucoup les clôtures.
Oui, surtout donc, avec le loup qui paraît-il rôde.
Voilà, exactement. Alors, Sandrine a fait beaucoup d'estives, notamment dans les Alpes et tout. Donc, elle a déjà croisé le loup, mais elle ne pensait pas le croiser en Bretagne de sitôt. Mais voilà. Donc, c'est encore un peu différent, ce qu'on appelle l'élevage allaitant. Donc vraiment pour la viande qui peut être en plein air et tout, avec une commercialisation aussi qui n'est pas le lait, ça se transforme tous les jours. La viande, c'est plutôt par à-coup et encore plus en ovin parce qu'on a vraiment une saisonnalité avec des ventes sous forme plutôt de caissettes, de livraison et tout. Donc voilà, pas les marchés, pas moi c'était les marchés, c'était... c'était les livraisons toutes les semaines, voilà, c'est une autre logistique.
Mmh. Et qu'est-ce que vous diriez de votre expérience de l'avenir de l'élevage animal là, à l'heure où on parle tout le temps en plus de manger de moins en moins de viande, de bien-être animal, comment est-ce que vous voyez l'élevage?
Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que on entend un peu tout et rien sur l'élevage et je pense qu'il faut vraiment, il y a élevage et élevage en fait, quoi. C'est-à-dire que effectivement, la Bretagne, après l'après-guerre, s'est beaucoup intensifiée, spécialisée, partie vers des élevages hors sol beaucoup parce qu'il fallait nourrir plus que juste nous. Du coup, on a perdu un peu de plus en plus les petits élevages, les outils de transformation qui soient collectifs. On n'a pas de fruitière non plus, on n'a pas de choses comme ça. Ça, on n'en a jamais.
Fruitière, c'est pour faire du fromage.
Ouais, par exemple, comme ils ont en Savoie ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est perdu. Mais l'élevage, faut quand même pas oublier que quand c'est ce qu'on appelle le système herbager, donc vraiment où on les nourrit à base d'herbes, c'est celui qui entretient les paysages, c'est du stockage de carbone, donc c'est plein de choses. Donc en fait, manger moins de viande, ok, et en manger de meilleure qualité. Maintenant, je pense pas qu'il faille arrêter l'élevage. N'empêche qu'il se trouve que effectivement le renouvellement des générations est quand même assez complexe, et encore plus en élevage, comme je disais, du fait des astreintes quotidiennes que ça engendre. Et puis parfois des coûts, des investissements aussi. On a aussi beaucoup, là, je pense qu'on a la moitié des éleveurs qui, dans moins de 10 ans, vont partir à la retraite. Donc beaucoup d'outils aussi qui vont être à reprendre. Mais ces outils, ces fermes, elles sont beaucoup trop grandes, avec beaucoup de bâtiments et tout.
Ça fait peur, quoi, c'est ça,
en fait. Elles sont très chères et pas en adéquation, finalement, avec le profil un petit peu des nouveaux porteurs de projets actuels qu'on va trouver, qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui veulent quelque chose plutôt à taille humaine, avec de la diversification. Donc, il va y avoir tout un travail, en fait, réfléchir un peu à d'autres formes d'installation. Je crois dur comme fer au collectif parce que, enfin, moi, je pense que c'est ce qui aurait pu m'aller. Maintenant, ça suscite aussi une réflexion sur l'humain, hein, parce que voilà, c'est une autre.
Le collectif, faut savoir faire.
C'est compliqué aussi. Ouais. Donc ça va être peut-être installé soit plusieurs petites fermes indépendantes sur une même ferme, soit des fermes un peu collectives comme ça, en réfléchissant un petit peu à la gouvernance. Et puis aussi, peut-être réussir à se dire que c'est comme tous les autres métiers, peut-être on peut ne pas être agriculteur toute une vie.
C'est ça.
Parce que c'est super fatigant. Mmh. Et trouver des sortes de passations possibles, parce que racheter, enfin, je veux dire, on s'endette quelquefois. Moi, j'ai eu la chance, je me suis endettée sur 12 ans, donc au bout de 12 ans, j'ai arrêté. Mais quelquefois, on s'endette sur beaucoup plus. Donc, il y a des personnes, quelquefois, qui ont envie d'arrêter, mais qui ne peuvent pas. Il y a eu à l'époque des fermes relais qui avaient pu être achetées par des communes pour être derrière, ou des réserves foncières ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus pour que ça soit plus souple et pour que des personnes puissent être, 10, 15, 20 ans agricultrices et puis qu'elles cèdent la place à d'autres.
Bon, on va s'arrêter sur ces pistes de réflexion. On va vous remercier, Solène Larzul.
Merci
bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.